Bonsoir. Arrivé vendredi dernier à la prison de la CPI à La Haye aux Pays-Bas en provenance du Rwanda, où il s'était rendu le week-end passé à l'ambassade des États-Unis, Bosco Ntaganda a comparu pour la première fois hier mardi devant la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale. Ce chef rebelle fait l'objet de deux mandats d'arrêt délivrés par la Cour en 2006 et 2012 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Quelle analyse faire de cette situation? Le transfert de Bosco Ntaganda à la CPI pourrait-il contribuer à la paix et la sécurité dans l'est de la RDC? Nous recevons comme invité Monsieur le ministre Lambert Mende, ministre des médias, chargé de relations avec le Parlement et de l'initiation à la citoyenneté. Il est porte-parole du gouvernement congolais. Monsieur le ministre Mende, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Bob Kabamba, professeur à l'université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur Bob Kabamba, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Auguste Mampouya, professeur de droit public à l'université de Kinshasa en RDC et à l'université de Nancy en France. Professeur Auguste Mampouya, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous, chers auditeurs et internautes, pour vos réactions. Ricardo Rupande de Mutuanga au Nord Kivu. Ne dansons pas avant la musique. La justice est loin de la politique. Ntaganda peut être acquitté par la CPI. Attendons voir la suite de la procédure au lieu de fêter. Baudric Kwayeno, depuis l'université de Kinshasa. Bosco Ntaganda ne vient qu'allonger la liste des Africains à la CPI. Pour moi, cette arrestation ne changera en rien la situation sécuritaire à l'est du Congo. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Bosco Ntaganda a comparu pour la première fois mardi matin devant les juges de la Cour pénale internationale. L'audience a duré près d'une heure. Poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre par la CPI depuis plus de 6 ans, ce chef milicien qui combattait dans le Kivu au sein du M23, l'une des milices soutenues par le Rwanda et l'Ouganda, s'était rendu volontairement à Kigali, puis à l'ambassade des États-Unis le 18 mars dernier, avant d'être transféré à la cour le week-end dernier. Depuis La Haye, retrouvons notre correspondante Stéphanie Mopa.
Bosco Ntaganda semblait tendu, anxieux, un brin perdu face au juge. Le milicien a souhaité s'exprimer en Kinyarwanda, sa langue maternelle. Il a expliqué qu'il était né au Rwanda le 5 novembre 1973. « Je suis né au Rwanda et j'ai grandi au Congo », a-t-il dit au juge, avant de déclarer qu'il était de nationalité congolaise. Se tenant debout dans un quasi-garde-à-vous, Bosco Ntaganda a encore expliqué qu'il était militaire au Congo avant son arrivée à La Haye. Les yeux baissés sur son pupitre, portant des écouteurs sur les oreilles pour l'interprétation, Bosco Ntaganda a ensuite expliqué qu'il avait pris connaissance des crimes que lui reproche le procureur. Des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Ituri en 2002 et 2003. L'accusation affirme qu'il a commis au sein de l'Union des Patriotes Congolais, où il émargeait alors, des meurtres, des viols, des pillages et des persécutions à l'encontre de la population civile. « Je plaide non coupable », a-t-il dit à la présidente de la Chambre. Mais la juge bulgare n'a pas voulu en savoir plus alors que Bosco Ntaganda souhaitait expliquer sa déclaration. Le chef de guerre pourra présenter sa défense le 23 septembre prochain lors des audiences de confirmation des charges. À La Haye, Stéphanie Mopa, Hirondelle News pour Radio Okapi.
Merci Stéphanie Mopa. Monsieur le ministre Lambert Mende, quelle est la réaction du gouvernement congolais après la première comparution de Bosco Ntaganda à la CPI?
La présentation de Ntaganda à la CPI est une très bonne chose pour la République démocratique du Congo, dans la mesure où elle marque le début de cette lutte contre l'impunité qui est le premier pas vers une pacification de longue durée de l'Est de la République démocratique du Congo qui n'a que trop souffert de toutes ces guerres, de tous ces seigneurs de guerre. En même temps, nous ne sommes pas payés d'optimisme parce que l'arbre Ntaganda ne cache pas pour nous la forêt de cette insécurité qui a pris ses racines au nord Kivu et au sud Kivu depuis 1998 du fait d'un voisinage très problématique qui nous a toujours causé des problèmes, et donc tout ne se ramène pas à la personne de Ntaganda, mais c'est déjà quelque chose, un pas dans la bonne direction.
Alors, Monsieur le ministre, je vous propose que l'on prenne cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Richard.
Maria Ikasa Mokonzi. J'habite la ville de Kinshasa, précisément dans la commune de Lemba. Le gouvernement congolais ne devrait pas se féliciter du transfert de Bosco Ntaganda à la CPI. Au contraire, il devrait saluer le courage de celui-ci du fait qu'il a demandé lui-même son transfert à la CPI. Parce que pendant 6 ans, après le mandat d'arrêt de la Cour, le gouvernement congolais s'est montré incapable de mettre la main sur ce dernier, prouvant ainsi la faiblesse de notre pays en face du monde.
Réaction, monsieur le ministre.
Mais nous n'avons pas dit que nous étions les plus forts du monde. Je vous entends là pérorer contre le gouvernement, à dire des choses que le gouvernement n'a jamais dites. Le gouvernement n'a jamais dit qu'il était la superpuissance du monde. Le gouvernement sait qu'il est faible, et la faiblesse du gouvernement est liée à l'histoire d'un pays qui a commencé au moment où même celui qui préside aux destinées du gouvernement n'était pas encore né. Donc là, vous enfoncez une porte qui est ouverte. Il est évident que nous sommes un État post-conflit qui a ses faiblesses. Il est évident que nous n'avons pas voulu accélérer la présentation de Ntaganda à la haie pour des raisons justement de notre faiblesse. Mais il est faux d'affirmer, comme vous le faites, cher auditeur, que Ntaganda s'est présenté volontairement. Vous ne maîtrisez pas l'information. Ntaganda a été exfiltré du Congo par le Rwanda, nous l'avons dit. Les Rwandais l'ont démenti, je me suis même fait insulter. Mais après, on s'est rendu compte que c'est nous qui avions raison. Et ce sont les militaires rwandais qui l'ont conduit jusqu'à l'ambassade. Donc il vaut mieux vous informer avant d'affirmer des choses.
Alors, monsieur le ministre, vous venez de dire que la présentation de Ntaganda à la CPI marquait le début de la lutte contre l'impunité. Mais le gouvernement, finalement, n'aurait-il pas des remords quand on sait qu'il avait refusé d'arrêter Ntaganda au nom de la paix?
Oui, nous n'avons pas refusé d'arrêter Ntaganda. Nous avons postposé la livraison de Ntaganda à la Cour pénale internationale pour sauver des vies humaines. Et si aujourd'hui Ntaganda a pu se trouver devant la CPI après la deuxième guerre qui nous a coûté peut-être quelques centaines de vies humaines, si nous l'avions fait au temps où nous l'avions refusé, cela nous aurait coûté des milliers, si pas des dizaines de milliers de vies humaines. Le gouvernement est seul comptable de ces vies-là et il faut quand même lui reconnaître le droit de décider qu'il vaut mieux protéger la vie des citoyens, décider de l'opportunité des poursuites. Tout juriste connaît ce principe-là.
Monsieur le ministre, juste une question de curiosité. On sait que Bosco Ntaganda, citoyen congolais, est-ce que le gouvernement congolais a été consulté dans les tractations entre le gouvernement rwandais et l'ambassade des États-Unis avant son transfert à la CPI?
Nous avons été informés, mais il n'y avait aucune raison de consulter, parce que le gouvernement congolais, le président de la République avait annoncé déjà son intention d'arrêter Ntaganda, de le faire juger soit au Congo, soit à la haie. Et deuxièmement, il y avait 2 mandats d'arrêt contre Ntaganda. Nous avions postposé, évidemment, mais par la suite, nous avions mis fin à ce deal avec Ntaganda. Et donc, le monde entier savait que nous souhaitions qu'il soit transféré. Et lorsqu'on nous a informé que le transfert aurait lieu, nous l'avons plus encouragé et même salué.
Il y a Monsieur le ministre Franck Mbomi qui nous écrit de Vienne en Autriche qui dit « Ce qui commence déjà à surprendre dès cet instant, c'est le choix de la langue de Ntaganda, né au Rwanda, grandi au Congo, démocratique, il est de nationalité congolaise, déclare-t-il, mais il est plus à l'aise seulement à Kinyarwanda, même pas en Swahili, qui se parle dans la région orientale de la RDC. Nous attendons avec patience le déroulement de ce procès. » Comment vous y réagissez, Monsieur le ministre?
C'est un problème qui se pose à Monsieur Ntaganda, pas au gouvernement, et pas même à votre auditeur. Je pense que chacun a le droit d'être jugé dans la langue de son choix. Vous savez, nous connaissons des enfants qui sont nés, que nous avons mis au monde dans notre exil en Europe, qui ne parlent aucune langue de chez nous. S'il a un problème, je suis sûr qu'il demandera à être jugé en anglais ou en français. Ça ne fait pas de lui nécessairement un étranger. Bref, c'est vraiment quelque chose qui est banal à mon avis. Et en tout état de cause, le Kinyarwanda est parlé par une partie de Congolais.
Alors, Monsieur le ministre, le fait que Ntaganda soit aujourd'hui à la CPI, quelles sont les données qui ont changé sur terrain pour que cet événement puisse avoir lieu?
Eh bien, la principale donnée, c'est que les pays voisins qui soutenaient à bout de bras cette aventure criminelle de Ntaganda ont été mis à nu ont été affaiblis dans leur stratégie par l'offensive diplomatique que nous avions menée et qui a ouvert les yeux à ceux qui les fermaient jusque-là, ce qui a poussé le Rwanda à prendre la bonne décision in fine. Je pense que c'est cela, c'est l'affaiblissement de cette stratégie de la dissimulation que nos voisins avaient mise en œuvre avec beaucoup de succès au cours de ces dernières années dans leur agression récurrente contre la RDC.
Et donc, et dans tout ça, Monsieur le Ministre, l'accord d'Addis Abeba mettrait-il le Rwanda dos au mur?
Mais je pense que l'accord d'Addis Abeba n'est pas là pour affaiblir le Rwanda ou n'importe quel autre pays. L'accord d'Addis Abeba est né justement des pressions de la communauté internationale et de la conscience que le Rwanda a eue que les choses ne pouvaient plus se passer comme auparavant, parce que tout le monde s'était bien rendu compte du rôle que ce pays voisin avait joué. Donc il fallait que le Rwanda fasse amende honorable. Cela a commencé par cette signature de l'accord d'Addis Abeba, en vertu duquel les malfaiteurs venus de RDC ne pouvaient plus trouver refuge comme auparavant au Rwanda. Et donc c'est ce qui a facilité le fait que le transfert a été rapidement effectué.
Merci, Monsieur le Ministre. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Professeur Bob Kabamba, comment vous avez analysé, comment vous analysez la première comparution de Bosco Ntaganda à la CPI?
Merci pour la question. Il faut bien se rendre compte que par rapport à l'arrestation donc de Bosco Ntaganda, qui était en ligne de mire de la justice internationale depuis quand même plusieurs années. Comme vous l'avez souligné, il y a eu deux mandats d'arrêt, donc celui de 2006 et un autre de 2012, qui ont confirmé un peu ce que beaucoup de rapports avaient déjà mis en exergue depuis plusieurs années. Et donc cette arrestation, c'est dans la lignée des choses de manière générale, c'est-à-dire que dès l'instant que Bosco Ntaganda s'est retrouvé réfugié au Rwanda en fuyant donc l'avancée et les troupes de l'ex-colonel Makenga, il n'avait pas d'autre choix que de se réfugier au Rwanda. Et le Rwanda, n'ayant un tel fardeau, n'avait pas non plus d'autre choix que de pouvoir arriver à trouver une solution, une porte de sortie pour le Rwanda. Et la porte de sortie a été, bien sûr, de le livrer à la CPI et en passant, bien sûr, par l'ambassade des États-Unis, ce qui avait l'avantage aussi d'embarrasser les Américains du fait que les Américains, comme vous le savez, ne sont pas signataires, ni signataires de traité de Rome. Et, par contre, ils ont signé avec le Rwanda toute une série de conventions et ce qu'on appelle les accords d'impunité pour que, et aussi bien les ressortissants américains ne soient pas poursuivables par la Cour pénale internationale dans des États qui ont signé des accords bilatéraux avec les États-Unis. Cela étant, mais il faut quand même bien souligner quand même plusieurs choses. Bosco Ntaganda étant arrêté, c'est quand même aussi un petit signal par rapport à d'autres chefs rebelles qui sont encore très très actifs dans l'est de la RDC, notamment, je pense aussi notamment par exemple même au colonel Makenga qui a déjà été souligné dans d'autres dossiers. Et par ailleurs aussi, il faut bien se rendre compte que si Bosco Ntaganda est arrêté, ce n'est pas par rapport aux événements du Nord ou du Sud Kivu, mais c'est essentiellement par rapport aux événements en Ituri. J'ose croire que la CPI ne va pas s'arrêter uniquement aux exactions qui ont été commises en Ituri, vont essayer d'étendre donc les enquêtes sur les méfaits dont a été l'auteur Bosco Ntaganda, aussi bien au CNDP que dans les M23, avec les exactions qui ont été commises contre les populations civiles. Et de ce point de vue-là, si la CPI va jusqu'au bout de sa logique, il va de soi que plusieurs chefs rebelles qui sont encore actifs dans l'est de la RDC pourraient aussi être épinglés. Ça, c'est pour une chose. Pour l'autre chose aussi, c'est que parce que la question que vous posez qui est capitale en disant est-ce que l'arrestation de Bosco Ntaganda veut dire le retour à la paix dans la région. Laissez-moi vous faire un petit rappel historique. Mutebusi en 2004 a été donc a pris les armes et a commis beaucoup d'exactions à Bukavu et a dû se réfugier donc au Rwanda. Et il est toujours là-bas au Rwanda et on n'a pas beaucoup de nouvelles à son sujet. Laurent Kunda, dont on sait le fondateur le chairman du CNDP et avant le CNDP, il dirigeait déjà d'autres mouvements de mutins et une rébellion avant le CNDP. RNDP, avant que cette demande ne soit aussi exclue, s'est retrouvée au Rwanda. Alors, on a maintenant Bosco Ntaganda qui est aussi exilé au Rwanda avant d'être arrêté. Et donc, on a l'impression, de manière très claire, que le Rwanda a appliqué ce qu'on appelle, de manière très claire en politologie internationale, c'est-à-dire que l'on essaie de liquider tous les dirigeants qui servent de porte d'entrée au Rwanda dans la partie orientale de la RDC, dès l'instant que ces dirigeants et que ces chefs de milices sont épinglés par la justice internationale, on s'arrange pour les éliminer et on les fait remplacer par d'autres chefs.
Professeur.
Donc je n'ai aucun doute sur le fait que malheureusement l'on pourra assister d'ici quelques mois à la naissance d'un nouveau mouvement et qui va repartir sur les mêmes bases que le CNDP, le M23 et d'autres
professeur.
Mouvements. Et garder cette insécurité et ces climats d'insécurité et d'exactions contre les populations civiles.
Professeur Bob Kabamba, nous allons revenir avec force à détail dans la deuxième partie de cette émission sur les conséquences de l'arrestation de Ntaganda. Mais professeur, entre-temps, j'ai presque posé la même question au ministre Mende. La RDC ne devrait-elle pas se mordre les doigts du fait que Ntaganda ait été arrêté et transféré à la CPI à partir d'un pays étranger où il fallait à tout prix qu'il se retrouve à la CPI, quels que soient les moyens, tout chemin mène en Rome.
Merci pour la question. Donc, que Ntaganda se retrouve à la CPI par rapport à la RDC, je pense que de manière très claire, puisqu'il s'agit de dossiers qui concernent 2002-2003, donc ce sont des massacres et des exactions qui ont été commises donc en Ituri donc, par rapport à cette période, je ne pense pas que qu'il puisse y avoir des répercussions claires sur le contexte politique actuel. Si vous vous souvenez historiquement et par rapport à l'histoire politique de la RDC, en 2002 et 2003, on est encore dans la phase de la transition, et dans cette phase de la transition, on a cette partie de la RDC qui était sous la direction des milices et pas nécessairement sous la responsabilité du gouvernement congolais. Par contre, je pense que l'Ouganda pourrait être épinglé, puisque si vous vous souvenez que au moment de ces différents événements, la présence ougandaise a été très très forte dans cette région de la RDC.
Merci.
Mais par contre, si effectivement la CPI élargit son enquête par rapport à Bosco Ntaganda, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux événements du Nord Kivu, c'est-à-dire en 2007-2008, puisque Bosco Ntaganda était déjà en 2008 avec le CNDP, et en 2012 avec le M23, par rapport aux différentes exactions qui ont été commises.
Merci.
Je pense qu'à ce moment-là, il pourrait y avoir effectivement des répercussions politiques si effectivement la CPI élargit les accusations et met des dossiers à charge contre Bosco Ntaganda pour cette période-là. Et on sait très bien que Bosco Ntaganda, à ce moment-là, était général de l'armée congolaise et agissait de manière claire, en toute légitimité, par rapport à tout ce qui était commis à ce moment-là.
Merci, professeur Bob Kabamba. Professeur Auguste Mampouya, quel est votre point de vue par rapport à la première comparution de Ntaganda? Vous avez suivi le ministre Mende et le professeur Bob Kabamba.
Merci bien pour la question, mais justement, par rapport à la première comparution, il n'y a pas grand-chose à dire. Vos premiers interlocuteurs n'y ont même pas répondu, parce qu'effectivement, il n'y a rien à dire sur cette première comparution. Il s'agit d'une comparution de présentation de l'identité et des griefs qui sont faits contre Ntaganda. Vous avez entendu la présidente, la juge, lui dire qu'il n'avait pas à s'expliquer de toute façon à cette phase de la procédure. Ça viendra plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a des choses à dire quant aux alentours, un peu comme mes prédécesseurs l'ont fait. Je salue d'ailleurs au passage le ministre Mende et Bob. J'aime bien qu'on discute souvent avec Bob, parce que ça nous est arrivé d'ailleurs sur Radio Okapi. Cela dit, en ce qui concerne ce que j'appelle les alentours, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles il a été arrêté, la part de la responsabilité du gouvernement congolais. Vous savez, ce thème est un thème de patriotisme, ce n'est pas un thème polémique. C'est pour ça que je me regrette que le ministre ait pris le temps d'un plaidoyer, d'une action du gouvernement. Il s'agit ici de quelque chose de très national, où il faut parler avec les faits sans chercher ni à faire un réquisitoire ni à faire un plaidoyer. Ce qu'il y a de vrai, c'est que l'impunité, heureusement, le ministre l'a dit maintenant, ça va être la lutte contre l'impunité. On montre que plus personne ne peut passer au travers des mailles de la justice. Mais ça a été de notre fait aussi, parce qu'on aurait pu déjà l'arrêter. Nous avions dit, justifié d'une manière positive, qu'on ne pouvait pas arrêter Ntaganda, parce que ce serait c'est vraiment le prix de la paix. En fait, le prix de la paix, c'est lui qui recommence la guerre en 2012. Bon, alors, on ne sait pas très bien si il a été ce que nous pensions de lui. Cela dit, maintenant, est-ce que l'arrestation de Ntaganda est un avantage pour l'une ou l'autre des parties concernées? Certainement oui. Le Rwanda qui a laissé les choses se faire se présente étant au Conseil de sécurité au mois d'avril, il va même le présider, se présente déjà comme une autorité respective, comme un État responsable qui est conscient des responsabilités dans la région et il le dit d'ailleurs. Donc c'est un avantage diplomatique qu'il recherche. Je ne sais pas s'il en aura les conséquences, mais il le recherche manifestement. Quant à nous, le Congo, nous sommes heureux, nous sommes contents que cela soit fait, même si ce n'est pas de notre initiative, mais en même temps ça nous met mal en point, en porte-à-faux par rapport à la situation, ce qui montre que nous avons eu une gestion qui nous a mis dans des contradictions, une gestion de cette crise de l'Est dans des contradictions qui aujourd'hui nous ont rattrapés, nous gênent quelque part au contour du mur, hein, même si nous nous en tirons très bien, ça c'est vrai aussi. Mais je voulais tout simplement dire, peut-être la deuxième partie de votre émission, comme vous le disiez tout à l'heure, nous en donnera l'occasion, je voulais surtout dire qu'il ne faut pas que l'on croie que l'arrestation de Ntaganda, si tant est qu'elle puisse même régler le problème à l'Est, soit la solution à toute la crise congolaise qui ne se résume pas à la guerre de l'Est. Et donc ça, ce sont d'autres aspects. Si l'on se pose la question d'un retour de la paix, d'une paix durable dans le pays, il faut que cette paix ne soit pas une paix seulement militaire, mais une paix structurelle et institutionnelle qui garantirait tout le monde.
Alors, professeur, quand vous dites que le transfèrement de Ntaganda à la CPI mettrait la RDC mal en point en ce qui concerne la gestion de l'affaire Ntaganda, dans les détails, qu'est-ce que vous voulez dire?
Non, pas mal en point, j'ai peut-être utilisé l'expression, j'ai même en porte-à-faux. Ça met en lumière nos contradictions dans la gestion de la crise de l'Est, pas seulement de l'affaire Ntaganda. Ntaganda n'est que l'un des épisodes, l'un des faits de la crise de l'Est. Il est clair que nous n'avions pas géré comme il convient la guerre de l'Est. La preuve, c'est que ce sont les mêmes qui, changeant de nom ou de statut ou de casquette, nous causent des ennuis constamment, déstabilisant le pays sur cette frange de notre territoire, même si, c'est vrai, le Rwanda est toujours pointé et découvert derrière. Ça, c'est vrai, mais ce sont toujours les mêmes individus. Tout à l'heure, Bob présentait comment déjà en 2004, Mutebusi a pu sortir des mailles de la justice, comment Nkunda, contre lequel, d'ailleurs, il faut le dire, aucun mandat d'arrêt n'a été lancé, s'est promené allègrement dans cette région et puis il est parti. Au contraire, on a signé avec lui en 2009. Ce sont les mêmes qui ont signé en 2009 qui aujourd'hui nous font de nouveau la guerre. On va certainement peut-être signer avec eux à Kampala. C'est tout cela, n'est-ce pas?
Merci.
C'est vrai que le ministre l'a dit, c'est notre faiblesse qui nous a poussé à cela, mais on n'a jamais avoué que nous étions faibles. Au contraire, nous avions oublié cette crise aiguë de l'Est. Jusque au début de l'année 2012, nous disions que c'était terminé, éradiqué. Il n'y avait plus que quelques poches de 500 éléments éparses qui ne pouvaient pas constituer un danger pour la République. Nous voyons bien qu'on avait mal diagnostiqué la situation, parce que c'est devenu très préoccupant aujourd'hui, et même on est en guerre carrément.
Merci, professeur Augustin Mampouya. Monsieur le ministre Lambert Mende, qu'est-ce que vous répondez au professeur Mampouya qui pense que l'affaire Ntaganda met pratiquement à jour la gestion, les contradictions dans la gestion de la situation même de l'Est de la RDC?
Oui, je voudrais d'abord saluer le professeur et saluer Bob aussi. Dire qu'effectivement, nous avons eu une gestion laborieuse, je dirais.
Et pas contradictoire.
Mais est-ce que nous aurions pu faire autrement? Dans la mesure où il y a des faits sur lesquels le professeur est revenu, par exemple sur l'évaluation de ces forces résiduelles M23, anciennement CNDP, je continue à maintenir qu'il n'était pas plus d'un demi-millier. Et nous avons connu un revirement de la situation lorsque, chassés du Nord Kivu par les FRDC, ils se sont retrouvés aux confins du territoire congolais sur les montagnes de Runyoni, à la frontière avec le Rwanda, et qu'ils sont revenus de 500, ils sont revenus à plus de 4000, c'est-à-dire qu'ils ont reçu des renforts de l'étranger. C'est ça le tournant de la guerre. Et cet élément n'était pas là au moment où nous évaluions la situation en 2010, 2011 et même au début de 2012. C'est pourquoi nous avons parlé d'une guerre d'agression qui est tout à fait différente de l'insurrection qu'avait été le CNDP, du moins à un certain moment. Donc nous savons que c'est une question de lecture. On peut effectivement critiquer l'approche prudente qui a été la nôtre du dossier Ntaganda, mais il est évident que nous avions en face de nous une menace de guerre dans laquelle nous nous trouvons maintenant, qui n'est plus une mutinerie ou une rébellion, mais une véritable guerre d'agression. C'est pourquoi nous marchions sur des pincettes compte tenu de notre propre situation.
Monsieur le ministre, le transfèrement de Bosco Ntaganda à la CPI ne constituerait-il pas un avantage diplomatique pour le Rwanda qui aurait fait ce que la RDC n'a pas pu faire?
Je ne pense pas qu'il en soit ainsi. Je pense que le Rwanda a été contraint de changer de stratégie. Je pense que l'information que nous avons, c'est que Bosco Ntaganda n'a pas été exfiltré du Congo vers le Rwanda pour être transféré à La Haye. Je pense que le transfèrement de Bosco Ntaganda à La Haye a été le résultat du bruit qui a été fait par la diplomatie congolaise, par le gouvernement congolais, les Rwandais niant farouchement que Bosco se trouvait chez eux parce qu'ils n'avaient pas l'intention de le livrer précisément à la justice internationale. Qu'allait-il en faire? Il y a une série d'articles maintenant d'analyse qui démontrent que les choses qui allaient se dérouler n'allaient pas se dérouler exactement dans l'intérêt de Ntaganda lui-même, mais il y avait des projets pour Ntaganda qui n'étaient pas celui de l'amener à La Haye. C'est avec l'acharnement que nous avons mis à démontrer, preuve à l'appui, que Ntaganda était bel et bien au Rwanda, alors que nos collègues rwandais prétendaient qu'il avait pris le chemin de Walikale et se trouvait dans les forêts primaires du Nord Kivu, qui a poussé le Rwanda à changer de stratégie et à l'exiger, à l'amener manu militari jusqu'à l'ambassade américaine, d'où il a été transféré vers la Cour pénale internationale. Donc, je pense que lorsqu'on connaît un peu ces détails, on nuance plus ou moins la bonne volonté du Rwanda, et je ne doute pas qu'aussi bien les Américains que tous les autres grands acteurs de la communauté internationale savent bien ce que je suis en train de dire là. Mais il faut dire que le Rwanda a pris la bonne décision. Objectivement, c'est quelque chose qui a été bien fait, in fine, que nous l'avons salué, mais cela n'exonère pas le Rwanda de tous les crimes qui ont été commis en République démocratique du Congo par ses officiels.
Alors, Monsieur le Ministre, par rapport à la deuxième partie de cette émission, où on voudrait savoir si le transfert de Bosco Ntaganda à la CPI pourrait contribuer à la paix et à la sécurité dans l'est de la RDC. Dans votre première intervention, vous disiez déjà que tout ne se résumait pas en Ntaganda. Cela n'aurait-il pas une quelconque influence sur terrain?
Oh, bien sûr qu'il y a une influence, dans la mesure, je crois que c'est Bob qui l'a dit, dans la mesure où il y a une pédagogie. Il y a un signal qui est envoyé en direction des seigneurs de guerre actifs et des candidats seigneurs de guerre. Et ils sont très nombreux dans le pays et même dans la région, ceux qui rêvent de prendre un raccourci vers la renommée, vers la richesse, vers le pouvoir, en faisant le coup de feu à l'est de la RDC. Je pense que l'arrestation de Ntaganda va dissuader un grand nombre de ces gens-là. Et ça, c'est positif. C'est quelque chose qui nous apporte une contribution tout à fait substantielle à la pacification en République démocratique du Congo. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus prendre l'arbre de Ntaganda pour cacher la forêt de cette déstabilisation téléguidée à partir de certains pays de la région en République démocratique du Congo. Donc, Ntaganda n'a été qu'un instrument. Nous devons porter nos regards vers ceux qui manipulent les gens comme Ntaganda, Motebussi, Makenga et d'autres.
Merci, Monsieur le Ministre Mende. Professeur Bob Kabamba, nous prenons pour vous cette autre réaction qui nous vient de Kinshasa.
Christian Segoua, des machines à Kinshasa, la capitale. Pour moi, tant que la RDC ne va plus régler des problèmes internes relatifs à la cohésion nationale, les vautours vont se servir des fusées-fuites de ce pays pour sa déstabilisation.
Réaction, professeur, on est déjà de plein pied dans la deuxième partie.
Merci pour la question. Je voudrais rappeler, bien insister pour les auditeurs, Bosco Ntaganda n'a pas été arrêté par rapport à ce qui se passe dans l'Est actuellement, c'est-à-dire par rapport aux événements qui sont en train de se passer et qui se déroulent encore sur le terrain dans le Rutshuru, dans le Masisi, liés aux activités du M23. Bosco Ntaganda a été arrêté pour des événements qui ont été commis, pour des crimes qui ont été commis en 2002 et 2003. Donc, il est vraiment important de pouvoir le souligner pour que les auditeurs comprennent très bien. Il ne faut pas mélanger ce qui s'est passé en Ituri et par rapport à ce qui se passe actuellement par rapport à Bosco Ntaganda. Ce qui veut dire que, de manière très claire, excusez-moi, je vais répéter, je vais répondre tout à l'heure à l'auditeur, ce qui veut dire que, de manière très claire, c'est que le fait d'arrêter Bosco Ntaganda ne résout pas la question actuelle qui est en train donc de sévir dans l'est de la RDC. Alors pour en revenir donc à l'auditeur de manière claire, et il est un fait que par rapport à la question de la justice, si j'ai bien compris la question de l'auditeur, je pense que le Congo a la capacité, même actuelle en étant faible, de pouvoir aller au-delà. Je m'explique. Actuellement, il y a encore au Rwanda même des combattants ex-M23 pro Bosco Ntaganda qui sont au Rwanda. Il y a M. Runiga qui est au Rwanda. Et je pense que la constitution de la RDC est très claire sur ce qui concerne les gens qui prennent les armes pour pouvoir revendiquer le pouvoir et ou bien qui essayent d'aller contre les institutions de la RDC. Le procureur de la République de la RDC peut quand même lancer un mandat d'arrêt contre ces différentes personnes qui ont quand même milité de manière claire contre la RDC pour obtenir leur rapatriement sur au Congo afin qu'ils répondent de leurs crimes devant la justice congolaise. Et ça, c'est tout à fait possible. Les textes de loi de la RDC, les différents traités qui ont été signés par le Rwanda et le Congo, ratifiés de deux côtés, sont des outils qui permettent à la RDC de pouvoir arriver à aller au-delà de l'effet Bosco pour arriver, de mon point de vue, à résoudre, à essayer d'une manière même symbolique, à résoudre cette question. Parce que si le Congo arrive à lancer un mandat d'arrêt, par exemple, contre Niga, qui est en train de chercher un pays d'exil, il ne pourra pas avoir l'exil, du fait qu'il y aura un problème juridique clair que le Congo aura établi. Les 600 combattants qui sont encore au Rwanda, je pense que le Congo peut, de manière très claire, demander juridiquement leur rapatriement pour pouvoir être traduits devant la justice. Ça, ce sont des événements, des faits que le Congo peut faire et qui auront un bénéfice non seulement par rapport à la lutte contre l'impunité, mais aussi qui va servir d'exemple par rapport à toutes les bandes armées, à tous les chefs milices qui sont encore actifs dans l'Est. En allant jusqu'au bout de la démarche, le Congo ferait un pas vers l'avant par rapport à l'impunité. Et les outils et les arguments juridiques sont entre les mains du Congo pour arriver à donner ce signal. Merci. Et ce signal sera impératif, de mon point de vue.
Professeur Augustin Mampouya, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Walikale au Nord Kivu.
Bernard Itunda, depuis Walikale, province du Nord Kivu. Je pense que la remise de ce seigneur de guerre à la CPI est vraiment un acte louable, mais l'important pour nous, la population civile, c'est que le gouvernement ne doit pas se laisser distraire par la présence de Taganda à la CPI. L'important pour nous, la population, c'est de voir le gouvernement dénicher tous les autres chefs de milices et ceux qui sont dans les institutions politiques, car la paix, la démocratie n'existe pas sans la justice.
Professeur, dénicher tous les autres chefs de milice et ceux qui sont dans nos institutions politiques, car la paix n'existe pas sans la justice. Le gouvernement, de votre point de vue, a-t-il une large marge de manœuvre dans ce sens?
Notre compatriote de Walikale a parfaitement raison. Il y en a encore beaucoup de ces chefs de guerre, des milices, et pas seulement, ou des militaires. Aussi bien de notre armée que de ces mouvements qui sont sur notre territoire et que nous pourrions, dont nous pourrions nous saisir relativement plus facilement que les gens qui sont au Rwanda. Parce que ça demanderait la bonne volonté et la coopération du Rwanda. Mais il y en a qui sont sur le territoire congolais. Il y en a qui sont même pointés par la Cour pénale internationale, mais avec lesquels nous négocions à Kampala. Je ne sais pas ce qu'on va faire de Makenga. Est-ce que, après avoir signé avec lui la réévaluation de l'accord 2009, nous allons le livrer à la Cour pénale internationale, etc. Est-ce que nous ne sommes pas là encore dans une véritable contradiction? La solution de ce point de vue est très claire. Si nous étions forts, si nous étions donné les moyens d'une véritable armée, nous n'aurions pas pu négocier avec Makenga ou ses amis du même acabit. Nous en sommes là. Je ne sais pas ce que nous allons faire de Makenga avec qui nous allons signer demain. En tout cas, nous sommes en train de négocier avec lui aujourd'hui. Tout cela, ils sont sous la juridiction congolaise encore. Et donc, nous n'aurons plus de prétexte pour pour ne plus agir d'une manière efficace. Par ailleurs, l'exemplarité de l'arrestation de Taganda et sa traduction en justice, moi je ne crois pas beaucoup dans l'efficacité de l'exemplarité. En criminologie, le ministre Mendel le sait très bien, on en parle, c'est vrai. L'exemplarité, le caractère intimidant, etc. Mais ça n'a jamais empêché les crimes d'être commis. De même que Taganda, qui était l'adjoint de Thomas Lubanga, qui l'a vu amené à la Cour pénale internationale, ça ne l'a pas empêché de commettre les mêmes crimes dans le sud et le nord Kivu, surtout dans le nord Kivu. Vous voyez, ce n'est pas ça qui nous garantirait quoi que ce soit. De même, pendant que Taganda est traqué, des crimes continuent de se commettre. Tous ces viols massifs, etc., ce sont tous des gens qui relèvent soit de la justice pénale internationale, soit de nos juridictions répressives sur place. Je pense que pour le moment, nous n'avons pas encore vraiment réalisé tout ce qu'il faut. C'est pour cela que je dis que au-delà même de la traque de ces fauchailleurs de vie des gens, au-delà même de cela, c'est d'une appréhension politique qu'il faut dans ce pays. C'est un problème global. Et ce qui est global est politique. Nous ne pouvons pas nous contenter de la répression. La répression n'a jamais été une politique. C'est un moyen de politique. Nous ne pouvons pas nous contenter de la répression et croire que nous aurons déraciné le problème. C'est pour cela que je dis, quelqu'un a parlé de la cohésion nationale tout à l'heure, et le président Kabila a bien découvert ce qu'il fallait, la cohésion nationale. Mais cette cohésion nationale, c'est pas une question de propagande ou de mobilisation par le discours, c'est une question de conscience sociale, de conscience sociologique, de conscience de chacun qui est à sa place où il est dans le pays, merci, par rapport à la légitimité de l'État. Je ne parle pas de ce que nous appelons les animateurs. La légitimité de l'État, qui chez nous devient de plus en plus faible parce que les Congolais n'ont pas l'impression que l'État leur apporte quelque chose. Tout
merci,
cela,
professeur.
C'est des problèmes.
Merci, professeur.
Voilà, nous devons nous orienter vers là, régler cet aspect global politique pour qu'il n'y ait plus de prétexte et pour que nous donnions les moyens d'une politique efficace.
Merci, professeur. Plusieurs auditeurs nous écrivent. Jean de Dieu Mungwana de Goma Nord Kivu. La comparution de Ntaganda n'amènera pas la paix à l'Est car certains dirigeants nationaux et internationaux font du business à partir de cette guerre avant Bosco égal, après Bosco Ntaganda. Muindo Mwito, l'arrestation de Ntaganda ne signifie pas la fin de la guerre à l'Est car il y aura un autre Ntaganda qui va naître. Christian Kabati, chercheur en droit international criminel à Durban, en Afrique du Sud. La CPI a encore du chemin à faire dans la quête pour un idéal de justice, car le procès de Ntaganda ne constitue pas une panacée à la problématique de la criminalité crapuleuse dans la sous-région des Grands Lacs africains. Ici, à long terme, d'envisager au niveau national et international une solution plus holistique en recourant à d'autres mécanismes judiciaires et extrajudiciaires pour lutter d'une manière durable et efficiente contre l'impunité et ses effets pervers en RDC. Monsieur le ministre Lambert Mende, il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. On va presque déjà conclure. Le professeur Mampouya a souligné le fait qu'il y a beaucoup de chefs miliciens, beaucoup de seigneurs de guerre qui sont à portée de main du gouvernement, mais le gouvernement ne fait rien pour les mettre hors d'état de nuire. Qu'est-ce que vous répondez?
Non, je pense que il n'est pas vrai que le gouvernement ne fait rien. Il faut quand même rappeler qu'un chef de guerre comme Laurent Kunda, comme Jules Moutebouti, ils sont sous poursuite des juridictions congolaises. Il n'y a pas un mandat de la Cour pénale internationale sur eux, mais il y a bien des mandats de la justice militaire congolaise sur eux. Et nous avons toujours requis la collaboration, la coopération du Rwanda. Maintenant, je pense que nous allons remettre le paquet parce que la situation est devenue telle que le Rwanda est obligé de faire un peu plus attention aux démarches concernant la pacification en RDC depuis qu'il s'est engagé à Addis Abeba. La plupart des éléments que le professeur a cités, Bakenga et d'autres, même s'ils sont assis avec nous à Kampala, comme l'était aussi Runiga qu'ils ont mis en fuite, ont été révoqués de l'armée. Il y a une procédure d'enquête préjuridictionnelle qui est en cours au niveau de l'auditorat général des forces armées. Ce sont des poursuites pénales et donc le fait de discuter avec nous des enjeux internes de la crise à la demande de la CIRGL n'exonère pas, nous l'avons bien dit au départ, ces personnes de leurs responsabilités dans les crimes qui ont été commis. Et je ne pense pas qu'avant Ntaganda à la Cour pénale internationale sera égal à après Ntaganda. Alors, il y a une situation qui a changé, il y a un contexte qui est totalement bouleversé et nous avons décidé de prendre les choses en main en ce qui concerne la lutte pour l'impunité et je pense que ça sera beaucoup plus efficace parce que nous ne sommes plus seuls comme nous l'étions jusqu'à il y a à peine quelques mois sur ce dossier.
Merci, monsieur le ministre Lambert Mende. Je rappelle que vous êtes ministre des médias chargé de relations avec le Parlement et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté également, porte-parole du gouvernement congolais. Professeur Bob Kabamba, à un moment, je vous ai senti dubitatif en disant qu'il y aura d'autres Ntaganda. Faut-il espérer finalement qu'on puisse mettre fin à ce cycle infernal?
Merci. Je voudrais terminer aussi sur la note de ministre Lambert Mende que je salue ainsi que mon collègue Mampouya. Et je voudrais aussi que si c'était possible que le ministre engage de manière très claire à ce que la RDC va user de tous les moyens, c'est-à-dire dès demain ou après demain dans les prochains jours, que le gouvernement va instruire le procureur général de la République et pour qu'il puisse, de manière très claire, ouvrir publiquement des enquêtes contre toutes ces bandes armées qui continuent à sévir dans l'est de la RDC. De mon point de vue, ça serait vraiment un choc et ça serait aussi un point positif qui amènerait à ce qu'il n'y ait plus ce cycle infernal pour pouvoir avoir une parcelle de pouvoir et avoir un peu de moyens de prendre les armes, de pouvoir mettre en péril la vie des citoyens. J'espère que le...
Merci, professeur. Souffrez que je vous arrête par là. L'émission se termine déjà. Professeur Mampouya, conclusion.
conclusion, moi, c'est peut-être devenu un dada au cours de cette émission. C'est vrai que les efforts ont été faits, mais peut-être pour, je ne dis pas la galerie, mais pour la com, pour la pub. Mais maintenant, c'est le moment d'engager de véritables actions effectives.
Merci, professeur. Fin de cette émission. Merci à vous, chers auditeurs internautes, de nous avoir suivis. À demain pour un nouveau numéro de Dialogue entre Congolais. Au revoir.